Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Salut à tous, bienvenue dans l'heure olympique. On l'attendait tout en haut du podium, mais elle a finalement craqué. La jeune russe Kamila Valieva est passée complètement à côté de son programme libre, échouant au pied du podium. Nous débuterons ce podcast avec notre consultant Alban Préaubert pour décortiquer ce calvaire pour Valieva. Nous enchaînerons avec la nouvelle désillusion pour Michaela Schifrin sur le combiné. Trois courses, trois sorties de piste pour l'américaine qui a décidément bien du mal dans ses JO. Flo Masnada est avec nous pour en parler. Et enfin, nous ferons une place au curling en troisième partie. Ce sport trop méconnu en France nous fascine tous les quatre ans. Nous en parlerons avec notre journaliste Bertrand Milliard. Je suis Adrien Yo et à mes côtés aujourd'hui, Maxime Dupuis, Laurent Vergne et Christophe Godot. Salut à tous.
Salut
à tous.
Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Castbox et en vidéo sur eurosport.fr. Allez, l'heure olympique, c'est parti. Tout le monde attendait son passage et finalement ce fut une souffrance pour tous. D'abord pour elle, Kamila Valieva, la jeune russe qui a chuté, qui a terminé en pleurs son programme libre. Mais c'est aussi une souffrance pour tous les amoureux du patinage artistique car ce ne sont pas des images que l'on aime voir. Pour en parler, on accueille notre consultant Alban Préaubert. Alban, quel gâchis au final ?
Quel gâchis, c'est vrai que ça a été un contexte extrêmement compliqué pour ce programme libre des demoiselles hein, sur ces Jeux Olympiques. On s'y attendait, on savait que la présence de Kamila Valieva était très controversée, qu'il y avait une énorme pression sur ses épaules hein, après ses soupçons et même ce test antidopage positif. Donc voilà, elle n'a pas su résister à la pression, ce qui était quand même une grande surprise parce qu'elle est tellement automatisée dans son patinage qu'on s'attendait à ce qu'elle déroule et qu'elle finisse sur ce podium dont elle était favorite de cette compétition. On savait aussi que si elle était sur le podium de cette compétition, il n'y aurait pas de podium à l'issue de la compétition puisque le CIO et l'ISU ont pris les devants, entre guillemets, en anticipant une possible sanction future pour Kamila Valieva et donc ne voulait pas le prendre le risque d'avoir un podium qui serait un peu fictif. Voilà, finalement, elle a presque rendu service de manière un peu inconsciente à la compétition en sortant de ce podium par ses erreurs, par ses multiples chutes sur les quadruples sauts. Mais ça a été quand même très pesant à regarder et puis voir tous ces pleurs en fin de compétition, à la fois pour Kamila Valieva, mais également pour les compétitrices qui étaient toutes sous une énorme pression. Ça a été un peu dur à voir comme compétition.
Maxime, Laurent ? Qu'est-ce que vous retenez de ce passage, de cette quinzaine finalement un peu triste pour Valieva et pour le patinage artistique ?
Moi, je pense que j'ai vécu le moment le plus marquant de ces Jeux, voilà, tout simplement. J'aurais préféré éviter parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une gamine de 15 ans qui était sur la glace, qui était en train de s'écrouler complètement, de plier sous la pression, quelles que soient les fautes des uns et des autres. J'ai vu une gamine qui finalement, j'ai l'impression que personne ne sort gagnant de cette histoire, il n'y a que des perdants. C'est-à-dire qu'elle, finalement, à vouloir espérer qu'elle concourt, elle n'a peut-être pas été protégée autant qu'il l'aurait fallu et de la faire concourir, quelle que soit sa faute ou ses responsabilités, qu'elle soit victime, qu'elle soit coupable, j'en sais rien. On le saura plus tard, je ne suis pas là pour juger de ça. On a fait un drame sur la glace parce que ça a duré 4 minutes. Elle tombe dès le début. On se demande même un moment, honnêtement, moi je me demande un moment s'il vaut mieux pas qu'elle arrête ou si elle va pouvoir aller au bout. Elle va quand même au bout et pour le résultat qu'on a vu. Donc, d'une certaine manière, elle a été jetée en pâture bien malgré elle et on se retrouve avec un résultat qui, en plus, qui est terrible, voilà, c'est qu'elle éclipse finalement la championne olympique et le podium. Et ça, c'est vraiment le pire qui pouvait arriver, on va dire, dans cette situation-là.
On a eu une compétition extraordinaire. Au-delà de la contre-performance de Kamila Valieva, il y a eu vraiment des programmes remarquables patinés par les compétitrices. Un niveau dans les deux derniers groupes phénoménal. La progression de ces demoiselles est énorme depuis 4 ans, on le sait, hein, avec des triples accels, des quadruples sauts qui sont réalisés très régulièrement maintenant. Une grande fiabilité technique sur l'ensemble des triples, avec beaucoup de programmes sans faute. Donc c'est vrai qu'on a un super podium avec Shcherbakova, Trusova et Sakamoto. Et au-delà, il y a eu vraiment de très, très belles performances. Et malheureusement, l'ombre de Valieva a un peu masqué toutes ses belles performances par ailleurs.
Est-ce qu'on ne se rappellera pas finalement que de ça, que de ce psychodrame Valieva, et le nom de Shcherbakova sera presque oublié, Laurent ?
Oubliez peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'événement, c'est plus l'affaire Valieva, tout ce qu'il y a eu autour d'elle. Moi, l'impression que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, finalement, elle ne pouvait être que perdante d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'évidemment, la compétitrice qu'elle est voulait être championne olympique et elle aurait certainement préféré être médaille d'or que de finir quatrième comme ça lui est arrivé là. Mais même en étant championne olympique, on lui aurait parlé beaucoup plus de l'affaire, du contexte, de tout ce qu'on sait, plutôt que de sa victoire. Donc, c'était presque perdant-perdant pour elle. Et c'est peut-être tout ça qui fait qu'aujourd'hui, elle a fait son âge. Voilà, elle avait 15 ans. Et c'est vrai qu'après le programme court, moi, j'étais assez stupéfait de voir qu'elle l'avait traversé presque comme si de rien n'était. Et c'est pour ça que c'est quand même une surprise de l'avoir vue aujourd'hui s'effondrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots. Donc, moi, ma question, Alban, que je me pose, c'est est-ce qu'elle va s'en remettre de ça et comment on peut s'en remettre ? Alors, l'avantage, c'est qu'elle est très, très jeune, mais même au niveau du patinage en Russie et de ce groupe qui est si controversé, comment tu vois la suite pour elle ?
C'est une bonne question. C'est compliqué de vraiment le savoir, parce qu'on sait que les carrières en Russie sont particulièrement éphémères. Hein, en général, après avoir fait une saison victorieuse, les patineuses russes sont souvent remplacées par des jeunes talents encore plus talentueuses qu'elles. Et voilà, déjà, il faut voir les conclusions de l'enquête. Quelle sera la sanction, s'il y a une sanction pour Kamila Valieva? J'imagine qu'il y aura une sanction après un test antidopage positif, mais encore une fois, comme elle est mineure et qu'elle a un statut protégé, le panel de sanctions est assez vaste et peut aller du simple blâme à 2 ans de suspension. Elle ne risque pas les 4 ans de suspension liés à une affaire de dopage, ce sera 2 ans au maximum. Et si elle prend 2 ans, évidemment, c'est très, très compliqué de sortir de sa période de suspension à 17-18 ans. Mmh. Avec 2 ans sans compétition, c'est compliqué de se motiver quand on n'a pas les compétitions. Voilà, ça pourrait sonner le glas de sa carrière. Je ne lui souhaite pas. J'espère qu'on aura l'occasion de la revoir, parce que c'est une patineuse qui est merveilleuse. Voilà, encore une fois, ça a été très compliqué à commenter, parce qu'à la fois, il y a des qualités phénoménales et en même temps, on n'a pas envie de cautionner la moindre triche s'il y en a eu, de sa part, de son entourage. Encore une fois, il y a trop d'incertitudes pour juger ou condamner qui que ce soit. Ce sera ensuite les enquêtes qui pointeront du doigt les responsabilités. Mais c'est vrai qu'il va falloir être présent à ses côtés, que son entourage soit à ses côtés et lui permettre de sortir de cette affaire, parce que ça va être très compliqué. Elle va continuer à être pointée du doigt par de très nombreuses personnes. Elle sera aussi très soutenue en Russie. On a vu des bannières à son effigie à Moscou. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on sait que voilà, il y a vraiment un peu 2 clans, les pro-Valieva et les anti-Valieva qui critiquent pas forcément Kamila Valieva en elle-même, évidemment, hein, puisque elle est trop jeune pour vraiment être jugée responsable de ses actes, mais qui critique un peu le système et la décision du tribunal arbitral du sport. Donc voilà, il va falloir qu'elle soit courageuse. Elle a montré qu'elle l'était quand même, hein, en se relevant de chacune de ses chutes dans ce programme, parce que moi aussi, je pensais qu'à un moment, elle allait s'effondrer en larmes pendant son programme et qu'elle finirait pas forcément le programme. Elle l'a fait. Elle l'a fait avec courage, en réussissant quand même les derniers sauts, mais ça a été évidemment très difficile à voir, et surtout sa réaction à la fin du programme et dans le Kiss and Cry était très pénible à voir.
Kiss and Cry qui portait bien son nom. Ouais, ouais.
On est d'accord. Merci Alban de ton temps, de tes analyses sur cette affaire Valieva qui malheureusement éclipse hein, un petit peu tout le reste. On le disait, Shcherbakova, le psychodrame aussi, Trousova qui a eu du mal à accepter sa deuxième place et qui elle aussi a fini en pleurs. Mais voilà, la grosse affaire du jour, c'était évidemment Valieva. On passe au deuxième sujet, si vous le voulez bien, avec le ski alpin. Je ne comprends vraiment pas ce qui n'a pas fonctionné. C'est par ces mots que Mikaela Shiffrin a répondu aux questions à l'issue de son combiné, un combiné qui a été une fois de plus décevant pour l'Américaine. Trois courses, trois sorties de piste. On va revenir longuement sur ce combiné. Pour ça, on accueille notre consultante Flo Masnada. Salut Flo. On a presque de la peine pour l'Américaine qui décidément n'arrive pas à mettre son ski en place.
Complètement. Moi, je suis hyper déçue pour elle. Elle ne mérite pas ça, quoi, quelque part, même si des fois, on dit est-ce qu'on le mérite ou pas, ça veut pas dire grand-chose. Mais je trouve qu'elle avait, elle avait essayé de mettre des choses en place pour réagir. Le fait de participer à toutes les descentes d'entraînement, même hier encore à l'entraînement de descente, du combiné, le super G, elle essayait de se recentrer sur des sensations. Mais dès qu'elle est retournée au départ du slalom, ben voilà, ça change, hein, voilà, le contexte, cette piste où elle n'a jamais franchi l'intermédiaire quand même, hein, sur, ni en géant ni en slalom, c'est quand même phénoménal. Et dès la première porte, on a vu qu'elle n'était pas dedans, quoi. Donc, comme quoi, on a beau faire tout ce qu'on veut, quand il y a un petit blocage là, dans la tête, c'était...
Ouais. Ouais, parce qu'on parle tout le temps des jambes, mais la tête, ça doit être aller à 50 ou 60% de tout le reste, parce que la technique, c'est-à-dire les filles l'ont toutes. Mais après, la différence est dans la tête. Et c'est vrai que là, on a l'impression que alors de s'aligner sur toutes les épreuves, c'est une bonne chose. On se dit que ça peut relancer la machine. Mais finalement, c'est un cercle vertueux qui se transforme en cercle vicieux. Et plus il y a le problème, plus il s'installe et plus il y a du doute. Alors moi, j'ai une question qui est très simple sous son premier abord, mais qui est plus compliquée possible. C'est comment on arrive à inverser cette tendance-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il vaut mieux à un moment couper ou continuer à essayer encore et encore?
Bah, je pense qu'elle a essayé encore et encore, pour le coup.
Donc, bon.
Donc peut-être que c'est la deuxième solution. Hein. Peut-être que c'est la deuxième solution de couper. Alors, le problème, c'est que couper, elle est en tête de la Coupe du Monde. Donc là, on va retourner sur le circuit normal. Voilà, j'ai envie de dire, elle peut sauver sa saison avec la Coupe du Monde de général. Donc, si elle coupe, ça ne va pas être simple non plus. Elle va forcément être épuisée à la fois mentalement et physiquement, parce qu'elle a, voilà, il y a quand même le froid, il y a toutes les courses, puis il faut assumer tout ça. Donc, ouais, c'est pas... Je sais pas. Moi, je pense qu'elle a essayé un truc, ça n'a pas marché. Enfin, j'essaierai autre chose, moi, parce que... Mais je ne suis pas Mikaela Shiffrin.
Même dans ses déclarations d'après-course, hein, je le disais en introduction de cette partie, elle le dit, it's annoying. Elle dit, je ne comprends pas. C'est ennuyeux de ne pas comprendre en fait, ce qui ne va pas. Elle explique qu'elle n'a pas forcément... Elle s'est pas forcément mis plus de pression. La pression, elle l'a tout le temps, tout au long de la saison. Et c'est ça qui est difficile à essayer de voir. Et si on ne comprend pas d'où viennent les problèmes, c'est difficile de trouver des solutions. Donc voilà, Maxime disait, est-ce qu'il faut faire une coupure ou pas? Elle a expliqué qu'elle ferait partie du team event, la dernière épreuve. Donc bah, elle n'a pas décidé de couper, elle a décidé d'enchaîner pour essayer de se remettre à la tête à l'endroit, Christophe.
Ouais, c'est ça. Par contre, elle a dit que, en rigolant évidemment, qu'elle pourrait être une charge pour son équipe. C'est un peu, c'est quand même Mikaela Shiffrin. Bon, on se demandait ce qu'elle pouvait faire, ce qu'elle peut espérer, c'est se dire que ces JO étaient une parenthèse. En Coupe du Monde, Flo l'a dit, elle est leader, donc elle a réussi une saison exceptionnelle. Et là, après la descente, donc avant le slalom du combiné, elle a expliqué aux médias américains qu'elle avait une image rémanente dans sa tête de quand elle sortait après 5 portes sur cette piste. Donc ce qu'elle peut espérer, c'est que quand elle quittera la Chine, quand elle quittera cette piste, bah, tout redevienne comme avant. C'est un peu le seul espoir là. Je pense que pour les JO, et j'ai très peur pour le team event, je pense que ça va être très compliqué. Voilà.
C'est pas sur la même piste, le team event, il est pas sur la même piste.
ça peut lui faire du bien. Une par contre qui a surperformé et qui conserve son titre du combiné, c'est Michèle Guisin, la Suissesse, qui apporte à la Suisse une cinquième médaille d'or sur les épreuves de ski alpin. Maxime, c'est tout simplement génial.
Ouais, c'est génial. Alors déjà, quand on se penche sur le tableau des médailles globales, on voit 5 or. Je crois qu'ils ont 9 médailles, donc 5 or, 1 argent, 3 bronzes. Donc déjà, rien que ça, ça suffit à rendre un pays heureux. Et eux, ce n'est que le ski alpin. Et on a un peu regardé ce matin, parce que ça me paraissait très, très gros comme bilan. Bah, c'est le record, tout simplement. Et ils ont 5 champions olympiques différents. Donc, ça donne un résultat d'ensemble du ski suisse qui est non pas formidable, mais qui est tout bonnement exceptionnel. Et c'est une réussite absolue.
J'ai envie de me pencher. Vous imaginez s'il y en avait Johan Claret sur la descente, s'il y en avait Mathieu Fèvre sur le géant, Alexis Pinduro sur le combiné, Clément Noël sur le slalom, et là, on serait les rois du monde. On paraderait dans toute l'Europe. Flo, c'est incroyable, ouais.
Ouais, non, c'est incroyable parce qu'en plus, tous leurs favoris, dans chaque épreuve, ils ont répondu présent, quoi. Ça c'est quand même phénoménal, quoi, parce que et même un Odermatt qui avait mal démarré, il redresse la barre aux géants. Ils sont, il y a une émulation incroyable. Et pourtant, il y avait quelques petites tensions là avant de combiner. Michel Guizin qui a été écarté de la descente, alors que voilà, moi personnellement, je l'aurais mis parce que bon, bref. Mais elle était aussi revancharde, donc c'était pour ça aussi qu'elle éclate le combiné quand même. Donc ouais, ils sont incroyables. Il y a une vraie émulation dans l'équipe, que ce soit garçon ou fille. Il y a des jeunes qui arrivent en slalom garçon. Alors, il n'y a pas eu de médaille en slalom garçon pour les Suisses, mais ils ont une équipe de malades. Hein. Donc, ouais, c'est clairement largement plus fort que l'Autriche. Alors, on dit toujours l'Autriche, c'est incroyable. Mais là, l'Autriche, c'est pas la même.
Et le team event arrive.
Oui. Oui, c'est ça. Mais bon, le team event, tout peut arriver.
Ouais, c'est plus aléatoire, mais on peut se dire que. Ouais. Il y a moyen d'aller chercher une dixième médaille, rendez-vous compte.
Oui, mais ça, c'est pour nous, celle-là.
Ouais. Il y en a trois, toi, sans médaille à prendre, donc au pire.
C'est ça. Un petit mot quand même sur Romane Miradoli, qui, on la voyait bien partie après la descente. Malheureusement, elle a enfourché. C'est la pression. Qu'est-ce qui a pu se passer?
Je réponds moi.
Ouais, vas-y, oui.
Honnêtement, je trouve qu'elle fait une très belle descente dans l'engagement, dans l'intention. Je trouvais que ça, c'était bien. Après, le slalom, elle fait aussi un très bon haut de parcours. Hein. Il y a rien à dire. Elle a fait très peu d'entraînement. Elle a dû faire 5-6 jours d'entraînement. Donc oui, elle enfourche. Ça ne se voit pas grand-chose. Ce n'est pas du tout la pression. C'est le slalom, quoi. Elle prend des risques. Elle n'a rien à perdre. De toute façon, c'est rien qu'elle arrive en bas en skiant à 50%, quoi. Donc voilà, mais moi ce que je trouve positif, c'est le. Je pense que l'équipe de France, en tout cas en vitesse, ils ont appris beaucoup de choses pendant cette. Les jeunes filles, on l'a senti à venir sur les Coupes du Monde. Là, clairement, pour moi, elles sont à leur place, quoi. Elles sont à leur place, autour de la 10e place, voilà. Et petit à petit, c'est en train de monter. C'est en train de. Je pense qu'il y a des acquis qui se solidifient, qui se renforcent. Et je suis sûre que la fin de saison va dérouler comme il faut.
On espère, en tout cas, on croise les doigts, on suivra ça sur les antennes d'Eurosport avec toi aux commentaires, cette fin de saison de Coupe du Monde. D'abord ce team event, hein, on n'oublie pas, la dernière épreuve, on a hâte de voir ce que peut faire notre équipe de France, et puis la suite de la Coupe du Monde. Merci Flo pour tes conseils, j'allais dire, non, pour ton expérience, pour ton savoir, c'est toujours agréable.
Tes lumières,
exactement. Allez, on passe à la séquence suivante. Le chiffre du jour aujourd'hui, il concerne la chinoise Eileen Gu qui peut, en cas de médaille sur le halfpipe, réaliser quelque chose d'inédit, Laurent.
Oui, elle peut rentrer dans l'histoire des Jeux. On parle beaucoup de possibilités d'écrire l'histoire vendredi, notamment en biathlon, avec Quentin Fillon-Maillet, Johannes Bö et Marthe Roysland. Mais Eileen Gu, en ski acrobatique, peut le faire. Elle a déjà eu la médaille d'or en Big Air. Ensuite, elle a eu la médaille d'argent en slopestyle. Et elle s'est qualifiée pour la finale du halfpipe. Et si elle monte sur le podium en halfpipe, elle deviendra tout simplement la première en ski acrobatique à compter une médaille dans trois disciplines différentes du ski acrobatique, ce qui n'a jamais été fait, ni chez les hommes, ni chez les femmes. Donc, la chinoise à domicile peut vraiment marquer l'histoire des Jeux vendredi.
On va passer désormais à notre dernière partie qui concerne le curling. Le curling me fascine, le curling nous fascine tous. Dès qu'on tombe dessus à la télé, nous sommes souvent scotchés. Ce sport est pourtant trop méconnu en France. Dans l'Euro Olympique, on a eu envie d'en savoir un peu plus sur le curling. Et pour en parler, on a invité Bertrand Millard qui commente la compétition sur les antennes d'Eurosport. Bertrand, on a envie tout simplement déjà que tu nous racontes, tu nous expliques en quelques mots le principe basique du curling. Parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent dans l'Euro Olympique qui ne comprennent pas tout à fait comment ça se déroule.
Ouais, on est dans la dernière partie. Il y a d'autres sports que le curling sur ces Jeux Olympiques?
Bien sûr.
Ok. J'ai rien vu d'autre parce que je suis dans mon tournoi à fond et je pensais que c'était juste les Jeux Olympiques de curling. Bon, c'est pas grave.
Ça commence avant. Ça commence avant la cérémonie d'ouverture et ça dure très très longtemps quand même. C'est un énorme tournoi.
Bah non, c'est parce qu'il y a une épreuve de plus maintenant qui est le double mix qui occupe la première semaine. Sinon, c'est deux semaines. Il y a un round robin assez long. Il y a 10 équipes hommes, 10 équipes femmes, un round robin. Donc, tu vois, tu joues 9 matchs en round robin. Et ensuite, c'est demi-finale et finale. C'est assez classique. Et petite finale pour la médaille de bronze. Si donc il faut définir le curling,
je vais essayer de faire assez simple. Ça pourrait se définir comme les règles d'une pétanque sur glace, mais avec la stratégie des échecs. C'est-à-dire que le côté pétanque, il s'arrête juste au fait qu'il faut être le plus près, non pas du cochonnet, mais du cœur de la cible, du cœur de la maison, qu'on appelle le dolly. Ça, c'est, on va dire, la toute petite règle de base. Mais après, pour arriver à ses fins, pour faire des stratégies, pour marquer un point, deux points, trois points, quatre, parfois plus, là, on se rapproche beaucoup, beaucoup plus des échecs. D'abord, parce qu'on ne peut pas tirer. En tout cas, on ne peut pas plomber comme on fait à la pétanque. Évidemment, il y a 40 mètres de piste et il y a une pierre qui pèse 20 kilos. Et les stratégies évoluent tout le temps. Elles sont extrêmement importantes, parfois très difficiles à comprendre. C'est pour ça que ça ne s'apprivoise pas en une fois, le curling. Ça s'apprivoise petit à petit. Il faut beaucoup réfléchir. Et moi, ce qui me plaît, et ce qui doit plaire aussi, j'espère, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'on doit vraiment faire travailler ses neurones. On doit être intelligent, essayer de comprendre la stratégie, de construire une stratégie. Quand on est joueur, c'est une chose. Quand on est commentateur, c'en est une autre. Il faut essayer de comprendre ce que veulent faire les joueurs. Et c'est ça qui est passionnant, en fait. C'est un sport passionnant parce que c'est un sport où il faut tout le temps réfléchir.
Et tu fais une comparaison avec la pétanque sur l'idée d'être le plus près possible là, du centre de la cible. Ça joue en plusieurs « end », comme on appelle au curling. Combien de « end » et au final, comment ça se termine finalement?
Alors effectivement, 10. Alors, c'est intéressant parce que la Fédération internationale est en train de réfléchir peut-être, encore une fois, et malheureusement, à raccourcir 8 ends, ce qui est la règle qui a été utilisée pour le double mix, mais le double mix, ça n'a rien à voir, ça joue à 2 contre 2, il n'y a que 5 pierres par équipe, alors qu'on en a 8 par équipe dans un match de curling classique. J'ai comparé pendant ces Jeux Olympiques avec le cricket, qui est un sport aussi long, où il y a des one-day match qui durent en gros 8 heures et des test match qui durent en gros 3 jours. 3 fois 8 heures, et où on a instauré récemment une règle qui s'appelle le 20-20, enfin une nouvelle formule. 20-20, c'est 20 overs par équipe. Je ne développe pas 6 balles par équipe, 6 fois 20, 120 balles par équipe. Et ça dure 3 heures. En gros, c'est calibré sur 3 heures, voire parfois un petit peu moins. Ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais les puristes du cricket, ils vous diront toujours que le 20-20, ce n'est pas du cricket. Eh bien, si on change la règle du curling, ce ne sera plus vraiment du curling non plus. Pourquoi ? Parce qu'on raconte une histoire dans un match. Je sais que l'heure aujourd'hui, l'époque, elle est à faut que ce soit plus rapide, etc. Mais non, on raconte une histoire, on construit un match, on construit end par end. Tout a une signification. Les premiers end, ils ont une signification. C'est comme si tu passes au tennis à des sets de 4 jeux. Ça n'a aucun sens. Donc, moi, je ne suis pas pour l'évolution de la règle. Le match, peut-être qu'il dure 3 heures, il dure souvent moins d'ailleurs. Ça peut être 2 heures gare, 2 heures et demie. Mais là, j'ai commenté les demi-finales hommes. Ça a duré 3 heures. Mais je ne me suis pas ennuyé une demi-seconde. Donc,
on n'en doute pas. Mais les end, chaque end, c'est combien de pierres par end?
Il y a 4 joueurs par équipe. Chaque joueur possède 2 pierres. Chaque joueur joue dans le même ordre. Il y a des postes. C'est comme au football. Il y a un numéro 1 qui s'appelle le lead. Il y a un numéro 2, second. Il y a un numéro 3 qui est souvent le vice-capitaine, le vice-skip qu'on appelle. Et il y a un numéro 4 qui a un rôle extrêmement important, les deux dernières pierres, qui est souvent le skip. Mais tu peux être skip et jouer en numéro 3, ça arrive aussi. C'est le skip, celui qui est le capitaine d'équipe et qui construit la stratégie, souvent avec son vice-skip. Chaque poste a des spécificités extrêmement différentes. Le poste de 1, il construit le jeu, c'est très, très important. Et surtout, je voudrais dire, c'est particulièrement important dans le curling. Pourquoi c'est devenu beaucoup plus intéressant depuis quelques nombreuses années maintenant? Parce qu'il y a des nouvelles règles qui ont été instaurées et cette règle s'appelle la free guard zone. Avant, on pouvait tirer n'importe quelle pierre. C'est-à-dire que tu mettais ta première pierre dans la maison, hop, t'es KO, on l'enlevait, un peu comme à la pétanque. Et là, tu arrivais à la fin, tu mettais ton point ou alors tu ne mettais pas ton point pour faire 0-0. Et voilà. Depuis quelques années, la free guard zone, c'est quoi? C'est que si tu mets les 4 premières pierres, maintenant, les 5 premières, ça a encore évolué. Si elles sont en garde, devant la maison, ne peuvent pas être enlevées. Elles peuvent être écartées sur les côtés. Mais si un joueur les fait sortir du jeu, la pierre qui a été sortie du jeu est remise en place et celle qui l'a sortie est éliminée. Donc, cette règle-là, évidemment, a facilité un curling offensif, un curling beaucoup plus stratégique, beaucoup plus de construction. Et ça a été… Alors là, si on n'est pas toujours pour les évolutions de règles dans le sport, mais là, ça a été… En revanche, une remarquable évolution qui permet à ce sport d'être devenu extrêmement stratégique et extrêmement intéressant.
Messieurs, est-ce que vous avez des questions de Béotien pour Bertrand?
Toujours, moi j'en ai toujours. On en a parlé un peu avec Bertrand, on se croise des fois dans les couloirs d'Eurosport. Et voilà, c'était de dire que, et en effet, c'est de la pétanque et des échecs. Et ce qui m'avait intéressé dans ce que tu m'as expliqué, c'est qu'en gros, tu peux difficilement décrypter ce qu'il va se passer parce qu'un coup, il y a souvent dans la tête du joueur, celui qui pousse la pierre, je ne sais pas comment on l'appelle, et ben, un coup d'avance. Et justement, c'est de réfléchir à la stratégie à long terme et ça se construit au fil du temps. Et donc, c'est plus qu'un sport où justement, comme tu as dit, il faut pousser la balle qui est la pierre. Pardon, qui est dans la maison.
Pour le coup, c'est vraiment comme les échecs.
Ouais, voilà, c'est ça.
Quand tu joues un coup, tu as déjà anticipé au moins les 4-5 suivants.
Le joueur s'appelle un curler, tout simplement.
Un curler. Alors, tu me fais la transition des curlers parce que depuis le début des JO, on voit tout le temps le fameux Matt Hamilton parce qu'il a un look un peu décalé par rapport aux autres. En gros, il a des Nike colorés, des cheveux longs. Voilà, il ressemble plus à un hard rocker qu'un curler. Qu'est-ce qu'il vaut, Matt Hamilton? Est-ce que c'est un bon joueur ou est-ce qu'on parle de lui parce qu'il a un look décalé?
Alors, Maxime, Matt Hamilton est champion olympique en titre avec l'équipe de John Schuster. Ils viennent de perdre en demi-finale dans un match épique face à la Grande-Bretagne. Donc, ils étaient tout près d'être à nouveau en finale. Ils vont jouer pour la médaille de bronze. C'est un numéro 2, donc c'est un joueur dont le rôle est de lancer de pierre et d'être aussi beaucoup au balayage. Les balayeurs, c'est le numéro 1, 2, 3, mais plus souvent les numéros 1 et 2. C'est évidemment un excellent joueur de curling. C'est un joueur qui a tout compris. C'est un Américain. Il a compris le marketing, comment ça fonctionnait. Et ils ont été champions olympiques de façon très surprenante il y a 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 4 ans, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et je dis bien extraordinaire. On a une finale entre la Suède de Niklas Edin qui va jouer encore une fois là en finale pour l'histoire. C'est probablement la plus grande équipe de tous les temps, le plus grand joueur de tous les temps. Il le sera définitivement s'il gagne cette finale. Il est quintuple champion du monde, septuple champion d'Europe, médaillé de bronze et d'argent déjà aux Jeux Olympiques. Cette équipe s'est présentée en finale face à l'équipe Big Lebowski, comme je l'appelle, de Matt Hamilton, parce qu'effectivement, quand on les voit, ils ont ce look, ils ont les casquettes, on a l'impression que c'est pas un club de bowling, mais c'est la même chose, c'est curling, mais ça ressemble un petit peu, et ça ressemble à l'équipe du Big Lebowski. Ben, cette équipe du Big Lebowski, en finale, il y a 4 ans, il y avait 4 partout au 8e end. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose d'absolument inimaginable. Niklas Edin, meilleur joueur du monde, a pris 5 au 8e end. Il a pris 5 pierres, 5 points. Ça a fait 9-4 à ce moment-là. Évidemment, le match était plié. Et les Américains ont été champions olympiques. Donc, Matt Hamilton, il est très intelligent. Il savait que ça ferait du buzz. Donc, il a fait ça pour faire parler du curling. Et il faut savoir aussi que ses cheveux, sa chevelure longue, vu que ça a fait du buzz, il va se couper les cheveux à la fin des Jeux olympiques. Et ça va être vendu aux enchères pour une action caritative en faveur de la lutte contre le cancer. Donc, voilà, c'est aussi un grand cœur. C'est un joueur qui a tout compris. Il sait comment faire le buzz. Mais pour répondre à ta question, c'est un exceptionnel joueur de curling, puisque je te dis, il est champion olympique en titre. Et il va jouer encore pour une médaille demain, la petite finale.
Moi, j'ai une question. On ne voit pas beaucoup de curling en France, ce que je disais en introduction. Dis-nous un petit peu quel est l'état du curling en France. Est-ce qu'il y a des clubs j'ai l'impression que c'est… On parlait l'autre jour avec Thibaut Fauconnet de la difficulté d'avoir des anneaux de vitesse pour le patinage de vitesse en France. Est-ce que c'est un peu le même problème qu'il y a en France pour le
clairement,
curling?
Clairement, parce qu'il y a très peu de pistes.
Et Thibaut, juste, je te coupe deux secondes, Bertrand, et Thibaut qui nous expliquait en plus que c'était d'autant plus compliqué que la glace du curling n'est pas la même glace que pour… faire du patinage de vitesse ou du short?
Ah non, rien à voir. Non, tu n'as rien à voir.
C'est vrai que c'est important de le préciser quand même, parce que c'est très pas forcément évident pour les gens.
Non, c'est très important. La glace de curling, en fait, elle a des picots. C'est-à-dire qu'il y a des petites gouttes d'eau qui sont rajoutées. Et donc, elle est, vous l'entendez, quand la pierre glisse sur la glace, ça fait un bruit particulier. Hein, c'est pas... Alors, effectivement, malheureusement, la plupart des clubs sont obligés de jouer sur des patinoires normales, mais donc pas sur de la vraie glace de curling. Des pistes de curling en France, il y en a, je vais pas dire de bêtises, il y en a 3, je crois. Une à Megève sur laquelle j'ai eu l'occasion d'évoluer plusieurs fois. Voilà. Et donc, le curling, malheureusement, il y en a très peu. Beaucoup, l'équipe de France actuellement, elle joue la plupart du temps, elle s'entraîne à Genève. Il y a une très belle halle de curling et les Suisses accueillent volontiers les Français. C'est en train de se développer. Il y a de plus en plus de clubs dans de plus en plus de régions. Il y a, je crois, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais Thierry Mercier, mon consultant, n'est pas là. Et je crois qu'on a passé on est à quelque chose comme 400 licenciés, mais il y a plus de licenciés en curling, par exemple, qu'en skeleton ou dans d'autres disciplines de glace en France. Donc, c'est en train de se développer. On a une équipe de France qui est partie de rien, de zéro, parce qu'elle avait été forfait. Il n'y a plus de joueurs. Donc, elle avait été forfait une année. Quand tu es forfait, tu redescends en groupe C européen. Et cette équipe est remontée du groupe C au groupe B. Et elle a un potentiel, c'est une équipe très jeune. Il y a le fils de notre consultant Thierry Mercier dedans, c'est une équipe de gamins qui ont la vingtaine. Ils sont niveau milieu groupe B actuellement, avec un objectif de remonter à terme dans le groupe A européen, c'est-à-dire les 10 meilleures équipes européennes. Alors, on est loin encore des Jeux Olympiques, évidemment, mais ça remonte petit à petit. Et il y a une structure surtout, et surtout la Fédération française des sports de glace qui a souvent délaissé le curling. Ben, ce n'est plus le cas. Madame Péchala, notamment, a accepté pas mal de choses, de débloquer du budget pour le curling. Donc, du budget, c'est de la possibilité de s'entraîner, de faire des stages. C'est primordial parce que je peux vous dire que les gars qu'on a vus là dans ce tournoi et qu'on a vus notamment en demi-finale, ça joue à un niveau stratosphérique. Et pour jouer à ce niveau stratosphérique, il faut lancer les pierres toute la journée. C'est des gars qui s'entraînent, je ne sais pas, 5-6 heures par jour.
Il faut savoir que les Canadiens… C'était ma question, c'est des pros ?
Ouais.
Il y a des,
ouais. Les Canadiens sont des professionnels, les Suédois sont pros, enfin cette équipe-là en tout cas, les Écossais sont pros. Et après, les Américains sont des semi-pros. Il y a beaucoup de semi-pros aussi, mais qui sont aidés, qui ont un travail, mais qui sont très aidés par leur fédération et surtout qui ont un emploi du temps qui leur permet de jouer quand même beaucoup au curling. Donc, ceux qui sont vraiment là au sommet, c'est des pros au Canada. Il y a beaucoup d'argent dans le curling. Hein. Il y a déjà des centaines de milliers de licenciés et il y a de l'argent. Donc, oui, pour arriver au niveau où sont les meilleurs actuellement, ceux qu'on a vus là, en demi-finale, par exemple, aujourd'hui, c'est clairement des gens qui en ont fait leur métier. Donc, en France, on est très loin de ça, mais il y a un espoir et on est en train de remonter un tout petit peu la pente.
On a fait un sujet, justement, la semaine dernière sur le curling en France. Et c'était Maxime Duchère. Et en effet, c'est 400 licenciés. Et voilà. Ordre de comparaison, c'est 5000 en Suède. Et l'équipe de France vise les Jeux à l'horizon 2030. Voilà.
Ouais. Alors après, il y a juste, si vous donnez envie, ce que tu m'as dit de donner envie aux gens, même s'ils ne connaissent pas très bien, la finale, là, homme, on n'a pas encore joué de demi chez les femmes, mais la finale homme, elle va être de nouveau plus qu'historique, puisque Niklas Edin et son équipe jouent à nouveau pour être cette fois-ci incontestablement la meilleure équipe et donc le meilleur joueur de tous les temps. Déjà, Eriksson, qui est numéro 3 de cette équipe, elle va être le premier homme, le premier curler à obtenir 4 médailles olympiques, puisqu'il en a pris une là en double mixte. Il en avait déjà 2 sur les 2 Olympiades précédentes. Donc là, il est assuré d'une médaille d'or ou d'argent. Donc ça, déjà, Eriksson, lui, va être le premier à 4 médailles olympiques en curling. Et Edin, le skip, ben, je vous l'ai dit, il est quintuple champion du monde. Il est septuple champion d'Europe. Il est médaillé de bronze, médaillé d'argent aux Jeux olympiques. Si on doit comparer avec un autre joueur, c'est John Morris, le Canadien, qui a été champion olympique masculin et champion olympique en mixte il y a 4 ans, qui a été, je crois, 2 fois ou 3 fois champion du monde. Mais c'est moins bien que 5. Edin, c'est fabuleux. C'est une équipe qui arrive un peu au bout. Hein. Ils sont allés au bout de cette 3e Olympiade parce qu'il n'y avait pas d'autre alternative que de remporter l'or. Là, il y a 4 ans, sur le podium, avec la 2e place, ils étaient effondrés. Là, ils vont jouer une très, très grosse équipe de Grande-Bretagne qui vient de les battre en finale des championnats d'Europe. Donc, le match il va être somptueux et il y a un enjeu colossal.
Donne-nous le rendez-vous. C'est dans la nuit de samedi à dimanche.
C'est la finale dames dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. La finale masculine aura lieu samedi matin à 7h du matin.
Eh bien, écoute, on sera là pour suivre ça sur Eurosport avec toi aux commentaires, évidemment. Merci Bertrand d'avoir expliqué à nos fidèles auditeurs. On vous encourage évidemment à suivre la finale. Et si vous voulez revoir les demi, c'est sur Eurosport.fr que ça se passe également. L'Euro Olympique, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous noter, à nous laisser un commentaire également sur les différentes plateformes d'écoute. Abonnez-vous aussi, comme ça vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On se retrouve demain avec, on l'espère, de nouvelles médailles. Et Maxime, le mot de la
fin. Merci de m'avoir invité dans Deep Impact.
C'est vrai qu'il y a l'équipe. Tu fais deep en fait, t'es deep toi.
Ouais, Bertrand était encore meilleur que dans Deep Impact. Oui, il est déjà très très bon.
Allez, salut à tous, merci.
Salut. Ciao.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.